La vérité souffre d'être trop analysée. Ancienne Maxime Fremen. Révérende mère, dit Irulan, je frémis de vous rencontrer en de telles circonstances. Elle se tenait sur le seuil de la cellule, évaluant les caractéristiques de la pièce ainsi que le voulait la manière Bene Gesserit. C'était un cube de 3 mètres d'arête qui avait été creusé au Taïré dans la roche brune qui soutenait la citadelle même. Il n'y avait là qu'un unique siège sur lequel la révérende mère Gaius Hélène Mohayam avait pris place. Une paillasse à la couverture marron sur laquelle étaient dispersées des cartes du nouveau tarot de Dune, un robinet et un évier, une cabine de toilette Fremen munie de seaux à humidité. Tout était grossier et hostile, sous la clarté jaune qui venait des 4 brilleurs amarrés aux 4 angles du plafond. Avez-vous averti Dame Jessica ? Demanda la révérende mère. Certes, mais je ne pense pas qu'elle lève le petit doigt contre son fils, dit Irulan. Elle regarda les cartes de tarot. Pour elle, en cet instant, elles évoquaient les puissants sourds aux suppliques. La carte du ver géant se trouvait à côté de celle du sable désolé. On conseillait la patience. Était-il besoin du tarot pour lui dire cela? Au dehors, le garde les observait par le voyant en métaglace. Irulan ne doutait pas que divers appareils n'eussent été placés là pour tout enregistrer. Elle avait longuement réfléchi avant d'accepter cette entrevue. S'en abstenir eût comporté d'autres périls. Avant l'arrivée d'Irulan, la révérende mère n'avait interrompu sa méditation prajna que pour consulter le tarot. Bien qu'elle sût qu'elle ne quitterait pas Arrakis vivante, elle était parvenue à conserver un certain calme. Les pouvoirs prescients pouvaient se révéler bien faibles, certes, mais l'eau trouble n'était que de l'eau trouble. Et il restait toujours la litanie contre la peur. Il lui fallait encore évaluer l'importance exacte des actes qu'il avait conduits dans cette cellule. À cet égard, de noirs soupçons avaient effleuré son esprit, soupçons vaguement confirmés par le tarot. Était-il possible que la guilde fût à la base de cette opération? Un Kuisara en robe jaune, au crâne rasé et ceint d'un turban, l'attendait sur le pont du long courrier. Dans son visage rond à la peau tannée par le soleil et le sable d'Arrakis, ses yeux avaient le bleu de l'Ibad. Un steward obséquieux venait de lui servir une capsule de café d'épices. Il avait relevé la tête, regardé la révérende mère en silence, puis posé la capsule. Vous êtes la révérende mère Gaius Hélène Mohayam? Répétant ces mots, elle revit la scène en images précises. Sa gorge s'était brusquement serrée. Comment ce sbire impérial avait-il eu vent de sa présence à bord du long courrier? Votre présence a été portée à notre connaissance, dit le Kuisara. Auriez-vous oublié qu'il vous est interdit de poser le pied sur le sol de la Sainte Planète? Je ne suis pas sur Arrakis, dit-elle. Je me trouve à bord d'un long courrier de la guilde en espace libre. Il n'existe pas d'espace libre, madame. Elle lisait clairement dans sa voix le mélange de haine et de suspicion qu'il éprouvait. Muad Dib règne de toutes parts, ajouta-t-il. Arrakis n'est pas ma destination. Arrakis est la destination de tous, dit le Kuisara. Pendant un instant, elle craignit qu'ils ne se mettent à réciter l'itinéraire mystique des pèlerins. À bord du long courrier, ils avaient été des centaines. Mais le Kuisara brandit une amulette d'or, la baisa, la porta d'abord à son front, puis à son oreille droite, avant de la glisser sous sa robe. « Veuillez rassembler vos bagages, dit-il, et m'accompagner au sol. »« Mes occupations m'appellent ailleurs. » C'est à cet instant qu'elle avait songé à une trahison de la guilde. Ou bien à quelques manœuvres qui ne pouvaient s'expliquer que par les pouvoirs secrets de la sœur de l'empereur. Ou alors, le navigateur de la guilde n'était pas parvenu à dissimuler la conspiration à la vision de Muad Dib. Il était certain qu'Alia, l'abomination, était douée des pouvoirs d'une révérende mère du Bene Gesserit. Qui pouvait connaître le résultat de la rencontre de ses pouvoirs avec ceux de son frère? « Immédiatement !» aboya le Kuisara. Tout en elle se refusait à descendre une fois encore vers cette maudite planète des sables. Cette planète où Dame Jessica avait osé se retourner contre les sœurs. Cette planète où le Bene Gesserit avait perdu Paul Atreides, le Kwisatz Haderach, produit ultime de nombreuses générations soigneusement sélectionnées et croisées.
« Je viens, » dit-elle enfin.
« Le temps presse, » insista Lokuizara. « Lorsque l'empereur ordonne, ses sujets obéissent. » Ainsi l'ordre émanait de Paul lui-même. Elle songea à adresser une protestation au navigateur commandant le long courrier, mais aussitôt la futilité de cette démarche lui apparut. Que pourrait faire la guilde ? « L'empereur, » dit-elle, « a déclaré que je mourrais si jamais je posais le pied sur Dune. Vous venez de faire allusion à cette mesure. » Si vous m'obligez à gagner le sol, vous me condamnez dans le même temps. Ne dites plus une parole. Ceci a été prévu. C'était bien ainsi, songea-t-elle, qu'il parlait des ordres impériaux. Prévu. Le chef sanctifié dont le regard pouvait voir au-delà de l'avenir avait parlé. Ce qui devait être serait. Il avait vu. Et ainsi, avec la troublante sensation d'être prise tout à coup dans quelque toile dont elle avait elle-même tissé la trame, elle s'était inclinée. À présent, la trame s'était concrétisée en cette cellule où Irulan lui rendait visite. La révérende mère constatait que la princesse avait quelque peu vieilli depuis leur dernière rencontre sur Wallach 9. De fines rides étaient apparues au coin de ses paupières. Eh bien, il était grand temps de vérifier si cette sœur était prête à obéir au commandement de l'ordre. « J'ai connu des appartements plus repoussants, » dit-elle en levant les mains. « Venez-vous au nom de l'empereur ?» Irulan interpréta immédiatement le message des mains levées, et ses doigts se déployèrent aussitôt tandis qu'elle répondait « Non. Je suis venu dès que j'ai entendu dire que vous étiez ici. » « L'empereur n'en sera-t-il point courroucé ?» demanda la révérende mère. Et à nouveau ses doigts bougèrent, interrogeant de façon impérative, angoissée. « Qu'il se fâche !»« Vous m'avez éduqué tout comme vous avez éduqué sa mère. Croit-il que je puisse vraiment vous tourner le dos ainsi qu'il l'a fait ?» Et les doigts d'Irulan dessinaient des phrases d'excuses, de suppliques. La révérende mère eut un soupir. En apparence, si l'on prêtait l'oreille pendant un instant, ce n'était là que le soupir d'une prisonnière se lamentant sur le destin. Mais il s'agissait en fait d'un commentaire sur la réponse d'Irulan. Il était futile de croire que le précieux schéma génétique de l'empereur pût être préservé par cet instrument. En dépit de sa beauté, la princesse était marquée d'une tare. Sous cette enveloppe de chair sexuellement attirante, vivait un être retors, plaintif, qui se souciait plus de mots que d'actions. Irulan, cependant, demeurait une Bene Gesserit, et les sœurs avaient en réserve certaines techniques qui leur permettaient de s'assurer que les plus faibles vecteurs de l'ordre seraient en mesure de remplir leurs fonctions. Tout en poursuivant une discussion banale sur ses conditions de détention, sa paillasse grossière, sa nourriture, la révérende mère mit en œuvre tout l'arsenal de la persuasion Bene Gesserit et donna ses ordres. Il fallait explorer les possibilités d'accouplement du frère et de la sœur. Irulan faillit s'évanouir. « Je dois avoir ma chance, » dirent ses doigts frénétiques. « Vous l'avez eue, » répondit la révérende mère, et elle précisa ses instructions. L'empereur avait-il jamais manifesté quelque colère envers sa concubine ? Ses pouvoirs faisaient de lui un être solitaire. À qui pouvait-il espérer s'adresser afin d'être compris? À qui, sinon à sa sœur? Elle était aussi solitaire que lui. Il convenait de sonder leur rapport, il fallait ménager certaines circonstances qui leur permettraient de se rencontrer en privé. De même, il ne fallait pas rejeter la possibilité de l'élimination de la concubine. Le chagrin faisait disparaître les barrières conventionnelles. Irulan protesta. Si Shiny venait à être tué, les soupçons se porteraient inévitablement sur la princesse. Il y avait aussi d'autres problèmes. Shiny suivait à présent un ancien régime Fremen qui qui était censé favoriser la fertilité et ne permettait plus, en tout cas, d'administrer les drogues contraceptives. Ainsi, Shiny serait de toute façon plus fertile. La révérende mère fut outrée de cette révélation, et elle eut beaucoup de peine à dissimuler son émotion tandis que ses doigts formaient de nouvelles questions. Pourquoi Irulan ne lui avait-elle pas fait part de cette information dès le début de leur entrevue? Comment pouvait-elle se montrer stupide à ce point? Si Shiny portait un enfant, l'empereur, très certainement, déclarerait que celui-ci était son héritier. Irulan protesta. Elle connaissait bien les dangers que la situation impliquait, mais les gènes ne devaient pas être perdus totalement. Stupidité, grinça la révérende mère. Qui sait quel facteur, quelle relation Shiny pourrait introduire par son origine Fremen? Les sœurs ne doivent contrôler qu'une ligne pure. Un héritier raviverait les ambitions de Paul. Il le pousserait à de nouvelles initiatives pour consolider l'Empire. Non. La conspiration ne pouvait permettre le développement d'un tel état de choses. Irulan, tentant de se défendre, demanda comment elle aurait pu empêcher Shiny d'essayer ce régime Fremen. Mais la révérende mère n'était pas d'humeur à présenter des excuses. Elle transmit à Irulan des instructions précises sur la façon dont il convenait d'affronter cette nouvelle menace. Si Shiny venait à concevoir un enfant, il faudrait alors glisser un abortif dans ses aliments ou sa boisson. Sinon, il ne resterait plus qu'à l'assassiner. À aucun prix, elle ne devait donner le jour à l'héritier du trône. Irulan fit remarquer qu'un abortif serait tout aussi dangereux qu'une attaque ouverte. L'idée de supprimer Shiny la faisait trembler. Irulan renoncerait-elle devant le danger? Demanda la révérende mère. Et la position de ses doigts indiquait un profond mépris. Furieuse, Irulan rétorqua qu'elle avait conscience de sa valeur d'agent au sein de la maison impériale. Les conspirateurs étaient-ils prêts à se passer d'elle? Comment comptaient-ils en ce cas maintenir leur surveillance de l'empereur? À moins qu'ils n'aient réussi à introduire un nouvel agent dans la citadelle, était-ce cela? Allaient-ils se servir d'elle une dernière fois pour une mission désespérée? Dans une guerre, les valeurs changent de rapport, dit la révérende mère. Le plus grand péril était de voir la maison des Atréides s'assurer la continuité de la lignée impériale. Les sœurs du Bene Gesserit ne pouvaient courir un tel risque. Au-delà même du schéma génétique des Atréides, le danger viserait le Bene Gesserit, dont les programmes subiraient des siècles de désordre si jamais Paul maintenait sa famille sur le trône. Irulan admettait cet argument, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser maintenant qu'il avait été décidé de sacrifier la princesse consort à une cause supérieure. Se pouvait-il qu'elle ignorât quelque chose à propos du Gola? La révérende mère lui demanda si elle pensait que les sœurs étaient devenues stupides. Avait-elle jamais refusé de révéler à Irulan tout ce qu'elle devait savoir? Ce n'était pas une réponse, certes, mais l'aveu d'une dissimulation. Irulan le comprenait. La révérende mère voulait qu'elle sache qu'elle ne pourrait en apprendre plus. Et comment pouvait-il avoir la certitude que le Gola détruirait l'empereur? Demanda Irulan. Elle pouvait tout aussi bien demander si le mélange pouvait détruire, rétorqua la révérende mère. Il y avait là un message subtil, se dit Irulan. C'était le fouet qui enseigne Bene Gesserit. Elle aurait dû voir depuis longtemps, lui disait-il, la similitude entre l'épice et le Gola. Le mélange avait une valeur, mais aussi un prix. L'accoutumance. Il accroissait la vie de bien des années, des dizaines d'années chez certains êtres, mais ce n'était jamais qu'une autre manière de mourir. Le Gola avait une valeur mortelle. Le moyen le plus évident d'empêcher une naissance non voulue, reprit la révérende mère, était de tuer la mère présumée avant la conception. Bien sûr, pensa Irulan. Si vous avez décidé de dépenser une certaine somme, autant en obtenir le maximum. Les yeux sombres aux reflets bleutés la regardaient. Il mesurait, attendait, sondait. « Elle lit clairement en moi, » se dit Irulan, troublé. « C'est elle qui m'a éduqué. Elle sait que je comprends maintenant quelle sorte de décision a été prise. Elle ne m'observe que pour savoir comment je prends conscience de cela. Eh bien, comme une princesse Bene Gesserit. Elle parvint à sourire et se redressa, se récitant les premières paroles de la litanie contre la peur. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Et lorsque le calme revint dans son esprit, elle se dit qu'il me sacrifie donc. Je leur montrerai ce que vaut une princesse. Peut-être leur rapporterai-je plus que ce qu'ils espéraient. Elles échangèrent encore quelques paroles pour mettre un terme normal à la conversation. Puis Irulan quitta la cellule. Après son départ, la révérende mère revint à son jeu de tarot et disposa les cartes selon le schéma du feu. Immédiatement, elle eut le Kwisatz Haderach de l'arcane majeur, couplé avec le 8 des nefs. La sibylle aveuglée et trahie. Des cartes défavorables qui annonçaient des initiatives inattendues de la part de l'ennemi. Elle abandonna le tarot et s'assit pour se plonger dans des pensées agitées, se demandant s'il était encore possible qu'Irulan pût les détruire.